L'actualité des Alpes du Sud avec en politique la contre-attaque de Patricia Granet-Brunello.
Alors que les élections municipales de Digne-les-Bains se voient annulées par la justice, le maire en place fait appel auprès du Conseil d'État. De nouvelles preuves seront amenées. Quant à l'édile, elle l'affirme avec force, elle ne veut pas céder devant Gilles Chalvet, son opposant, et son arrogance et sa malhonnêteté.
Gap va se lancer dans la production d'hydrogène.
La capitale 12 veut être la capitale verte des Hautes-Alpes et vise notamment l'autosuffisance. D'ici la fin du mandat, le maire et président de l'agglomération, Roger Didier, veut la création d'une station fournissant de l'énergie aux véhicules communaux et intercommunaux par l'hydrogène.
Gap toujours et d'autres villes qui misent notamment sur le plan relance pour financer leurs projets.
Un plan mis en place par le gouvernement lors de la crise sanitaire pour assurer le rebond économique. Mais a-t-il fonctionné dans nos deux territoires ? Focus ce matin sur Flodim, une entreprise à Manosque qui a bénéficié d'une aide, et Orcières-Merlette, commune qui a aussi vu une enveloppe arriver. Qu'est-ce que cela a changé pour elle ?
Un mot de sport avec le glas qui a sonné pour le ski de vitesse à Vars.
Covid oblige, il n'y aura pas de compétition cette année. Et puis en hockey sur glace, Ligue Magnus, les Briançonnais chutent face à Angers. Les Gapensais se confortent face à Nice. Météo.
Avec un ciel souvent tout bleu pour cette journée, avant l'arrivée de quelques petits nuages qui ne vont gêner nullement l'ensoleillement donc sur les Alpes du Sud. Côté température, pour nos deux départements, ça augmente les maxis de 10 jusqu'à 17 degrés. Elle n'a pas dit son dernier mot face à la justice administrative de Marseille. Patricia Granet-Brunello contre-attaque.
Le maire de Digne-les-Bains voit depuis la fin février les élections municipales l'ayant assise l'an dernier dans son fauteuil d'édile annulé. Son opposant Gilles Chalvet, tête de liste terdinoise Devoir d'agir, avait déposé un recours. Il avançait alors 5 griefs et notamment des accusations de fraude électorale, de propagande via les outils de communication de la ville ou bien encore des irrégularités dans 837 procurations et 56 émargements. Au final, le tribunal administratif de Marseille a seulement remis en question l'authenticité d'une procuration et de 13 émargements, mais bien suffisant pour la justice pour mettre en doute la légitimité du scrutin, car seulement 3 voix en effet séparaient le maire de son opposant. Patricia Granet-Brunello prend acte de cette décision, mais elle a décidé de faire valoir ses droits dans un appel auprès du Conseil d'État. Un appel qui s'explique par 2 raisons, selon son avocat Jean-Christophe Ménard.
Nous souhaitons que le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême dans l'ordre juridictionnel administratif, se penche à nouveau sur le dossier, l'examine une seconde fois, porte un regard nouveau, et puis examine également les explications que nous avons fournies et les nouvelles preuves que nous fournirons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie question de principe. Le tribunal administratif de Marseille a considéré que le requérant avait apporté les preuves suffisantes pour démontrer qu'il y avait une différence d'émargement. C'est indiqué dans le jugement. Et sur ce point-là, nous sommes en profond désaccord parce que M. Chalvet s'est contenté en vérité de faire un copier-coller des émargements. Il n'a apporté strictement aucune explication, aucun éclaircissement sur ces différents émargements. Et plus grave encore, il ne produit pas la liste d'émargements. Il s'est contenté de faire des photographies. Certaines d'entre elles ont doute de leur validité, certaines d'entre elles ont peut-être été manipulées, et ça pose un vrai problème d'un point de vue juridique en matière de charge de la preuve.
Patricia Granet-Brunello compte aussi répondre aux accusations de Gilles Chalvet qu'elle juge violentes et diffamantes. Selon elle, il a instrumentalisé la procédure et semé le doute sur la légalité de cette élection.
Je défends mes intérêts particuliers plutôt que collectifs. Et que même je devrais aller m'occuper des tapisseries d'Alexandra Davinel. Je trouve que là, M. Chalvet prouve tout le mépris qu'il peut avoir pour l'égalité homme-femme. Et donc, je veux l'affirmer avec force que je ne céderai pas. Et nous ne céderons pas devant l'arrogance et la malhonnêteté de M. Chalvet. Quand M. Chalvet nous accuse de gouverner sans partage, je crois que ce sont lui et ses équipes qui ont refusé de faire partie des différentes commissions. Et j'affirme encore que sa logorrhée haineuse traduit un manque de hauteur évidente pour une personne qui souhaite être maire de cette ville. Je me demande vraiment quels sont les objectifs de M. Chalvet. Est-ce que c'est pas nuire à l'équipe en place, mais peut-être à moi en particulier. Je me pose ces questions.
Patricia Granet-Brunello appelle également ses équipes à rester mobilisées au service des Dinois pour les semaines et les mois à venir. Une période qui annonce cependant de nombreuses passes d'armes entre la maire sortante et Gilles Chalvet jusqu'à la décision finale du Conseil d'État. Notez également que Marianne Bauduit, de l'opposition municipale également, était l'invitée du 8-30 hier. Vous retrouvez son entretien sur alpe1.com.
Embrun voit sa ville endeuillée après la disparition de Chantal François.
L'adjointe en charge de l'animation, de la dynamique du centre ville, des marchés et des festivités a disparu à l'âge de 69 ans des suites d'un accident cardiaque. Après un premier mandat au commerce et au tourisme, elle était donc apparue une nouvelle fois aux côtés du maire Chantal Emeaud lors de sa réélection en 2020. Direction Briançon avec le coup de gueule du maire Arnaud Murgia. Ce dernier a demandé au service technique de la ville en début de semaine de procéder à un nettoyage complet autour d'Oronsfine. De nombreuses dégradations et des incivilités ont été constatées par le voisinage dont certains ont déposé plainte. L'édile ne veut pas relancer la polémique, c'est ce qu'il dit, mais il va demander des comptes à l'association Refuge Solidaire qui accueille des exilés dans ce quartier. Pour rappel, cette structure était sous le coup d'une mise en demeure de quitter les lieux d'ici le 30 octobre dernier, mais un délai supplémentaire de 6 mois a été accordé à condition qu'ils quittent eux-mêmes les lieux au printemps prochain.
Gap sera-t-elle la prochaine ville verte des Alpes du Sud et ira-t-elle jusqu'à l'autosuffisance énergétique d'ici 3 ans?
C'est en tout cas la volonté du maire de Gap et président de l'agglomération Roger Didier, faire un véritable territoire pilote avec plusieurs projets menés de front et notamment la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau pour les véhicules communaux et intercommunaux. Une station qui pourrait produire entre 200 et 400 kilos par jour.
C'est ni plus ni moins la possibilité de, à terme, au niveau du processus d'électrolyse, en fait, de fabriquer de l'électricité qui va permettre aux autobus de se déplacer, qui va permettre aux véhicules particuliers de se déplacer, sachant que la production aura certes un coût, mais il y aura la possibilité de stocker au sein même des véhicules une partie de cette production, de la distribuer sous forme d'énergie électrique. Donc tout ça, c'est un environnement qui me paraît essentiel, qui va véritablement dans le même sens que le propose le gouvernement actuel, que le proposent d'ailleurs tous les institutionnels que sont à la fois les régions, mais également les départements, et il n'y a pas de raison que nous prenions du retard.
Cette énergie pourrait être utilisée par les bus urbains, les cars longue distance, les poids lourds comme les bennes à ordures ménagères ou encore les véhicules utilitaires. Le coût est estimé entre 4 et 7 millions d'euros. Des aides sont espérées dans le cadre du plan de relance jusqu'à 80%. Une concertation va être engagée. Autre projet, créer du gaz GNV bio grâce aux déchets de la station d'épuration et à la collecte des déchets organiques. Des études de faisabilité sont en cours. Une usine de méthanisation qui pourrait voir le jour dans la zone du Moulin des Prés pour la fin de l'année 2023. Également envisager la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux pour atteindre l'autosuffisance de consommation pour l'éclairage public.
Le plan relance, vous l'avez entendu, qui laisse l'espoir aux collectivités de bénéficier d'un levier financier.
Mis en place pendant la crise sanitaire et face au remous économique, il dresse aujourd'hui son premier bilan dans les Alpes du Sud. Entre septembre et fin février, près de 26 milliards d'euros ont déjà été engagés en France avec 3 axes prioritaires, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Focus sur la mise en place de ce plan de relance d'envergure sur les Alpes du Sud avec vous Christophe Laurenceau.
À l'instar de tous les départements du pays, les Alpes du Sud bénéficient d'une aide non négligeable afin de relancer la machine économique qui s'est enrayée depuis près d'un an. Un plan de relance qui se déploie donc sous 3 volets. Celui de la compétitivité a un vrai impact sur le rebond de 5 entreprises bas-alpines. Dès 2020, elles ont bénéficié d'au moins 1,9 million d'euros pour réaliser plus de 5,6 millions d'euros d'investissement dans le cadre de l'appel à projet territoire d'industrie. Avec une aide de 800 000 euros, la société Flodim, basée à Manosque, qui est spécialisée dans la mesure et les services en cavité souterraine, prévoit ainsi un développement inenvisageable jusque-là, selon son gérant Jean-Paul Crabeil.
Nous avons décliné notre dossier sur 3 grandes directions. La première, c'est nous aider à financer un bâtiment industriel. Une deuxième étape, ce sont des machines d'usinage et des machines de contrôle Et le troisième volet, c'est pour nous aider à améliorer et nous permettre de poursuivre nos efforts dans le domaine de nos interventions, donc dans le domaine de l'opérationnel. À terme, les efforts d'investissement que nous faisons puissent permettre à la société d'augmenter son rayonnement en France et surtout à l'international. Et là, les efforts ont un impact direct sur la structure au niveau du personnel de la société.
Deuxième composante de France Relance, le volet cohésion vise à donner des perspectives à la jeunesse française avec le plan Un jeune, une solution, la préservation du patrimoine culturel et le soutien aux communes dans leurs projets d'investissement locaux. Pour ce dernier aspect, ce plan de relance est un concours de circonstances heureux pour la commune d'Orcières qui voulait rénover son école, un projet qui s'inscrit dans un grand plan de rénovation des infrastructures municipales avec une nouvelle mairie, un parking et une salle polyvalente. Au total, 712 000 euros s'incorporent ainsi dans ce chantier de 3 millions d'euros financé à deux tiers par l'État, la région et le département. Un véritable coup de pouce pour le maire Patrick Ricou qui envisage la fin des travaux au printemps pour une rentrée 2022 avec une école flambant neuve.
C'est un projet sur lequel l'équipe municipale a travaillé depuis de nombreuses années. Et puis c'était un projet qui était pour nous prioritaire dans le cadre du réaménagement du village du chef-lieu de notre commune. Donc nous aurions forcément conduit ce projet, mais cela se serait fait au détriment d'autres projets qui auraient été mis en attente, en stand-by, en attendant que nous ayons supporté financièrement ce projet-là. Donc ça nous permet également de conserver des moyens pour investir par ailleurs dans d'autres projets communaux.
Troisième et dernier volet, la volonté écologique de ce plan de relance se matérialise par la rénovation thermique de nombreux bâtiments de l'État dans les Alpes du Sud. 4,1 millions d'euros pour 25 projets bas alpins et 13,7 millions d'euros pour 19 chantiers haut alpins. Finalement, les particuliers sont également aidés financièrement avec MaPrimeRénov pour réduire l'empreinte carbone de leur logement. En 2020, 383 et 288 personnes en ont bénéficié respectivement dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes.
Merci Christophe. France Relance actionne également le levier de la fiscalité pour venir en soutien aux entreprises avec une baisse des impôts de production. 1993 entreprises basalpines en ont bénéficié pour près de 29 millions d'euros. Elles étaient 1912 entreprises haut-alpines pour un total de 16 millions d'euros de baisse.
Briançon mérite un détour.
La commune vient de recevoir 2 étoiles dans la sélection du guide Vert Michelin pour 2021. Cette année, ce sont 88 sites touristiques qui ont été mis à l'honneur dans ce petit guide qui accompagne depuis plus de 90 ans les voyageurs. 1 étoile signifie intéressant, 2 étoiles mérite un détour, 3 étoiles vaut le voyage. Et pour établir cette sélection, 9 critères ont été pris en compte.
Alpin Sport. Alpin Sport. Avec le hockey sur glace, alors Briançon renversé et Gap qui poursuit sur sa lancée.
Nouvelle soirée de Ligue Magnus hier soir, Briançon y aura cru jusqu'à la fin. Les Ducs étaient menés 3 buts à 1 à la fin du second tiers, mais les 3 buts briançonnais qui ont été marqués en supériorité numérique. Mais les Angevins sont allés chercher un 8e succès d'affilée grâce à Danick Bouchard par 2 fois, puis Philippe Allais. Nice s'enfonce avec une 6e défaite de suite. Les Aigles avaient pourtant ouvert le score dès la seconde minute, mais les Rapaces ont répondu par l'intermédiaire de Dimitri Tillet. L'attaquant a également délivré l'assistance sur le but de la victoire inscrit en 2e tiers. Les Gapensés enchaînent une 3e victoire de rang et se retrouvent à une 4e place confortée.
Et le glas a sonné, il n'y aura donc pas de ski de vitesse cette saison à Vars.
Décalé fin mars à cause des restrictions sanitaires et notamment la fermeture des remontées mécaniques, les nombreuses compétitions internationales de ski de vitesse prévues sur la mythique piste de Chabrières sont officiellement annulées. La station donne donc rendez-vous en 2022 aux skieurs les plus rapides de la planète. Notez cependant que cette saison débutera enfin en cette fin de semaine avec 3 courses ce jeudi, vendredi et samedi en Suède. L'opportunité pour le haut alpin et leader de la délégation française Simon Billy de retrouver la compétition après plus d'un an à ronger son frein. Et puis 5 jours 100% ski alpin au Sauze et à Pralou. À partir de ce mercredi, le ski chrono Samsé Tour Technique pose ses valises sur les 2 stations basalpines pour 4 courses organisées, plus de 150 athlètes seront présents.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.